Il est 8h passé de 8 minutes, presque 9 minutes. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de Vincent. Bienvenue Vincent.
Bonjour.
Merci de t'être levé des potrons minés, comme on dit, pour venir nous parler de Cheap Satanism Records, qui est le label que tu as créé, non pas il y a 10 ans, mais il y a 13 ans, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce qui te mobilisait à l'époque quand tu as créé ce label ? D'où t'es venue cette idée ? Comment c'est né ?
Mais à l'époque, j'étais dans des webzines musicaux. J'écrivais pour des webzines musicaux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à organiser des concerts. Et en organisant des concerts, j'ai commencé à inviter des groupes qui n'étaient pas nécessairement signés sur un label. Et certains avaient des albums prêts à être diffusés et sortis. Et j'avais à l'époque des économies que je pouvais dépenser. Et donc, j'ai décidé de les aider à sortir leur album. Au tout début, j'ai fait ça pas via mon propre label, mais via un label que tu dois bien connaître, BY Records, qui était un label créé par des amis d'enfance, et via BY Records, j'ai sorti le premier et unique album de Mrs. Okido. Et par la suite, j'ai décidé de créer mon propre label pour ne pas avoir à devoir me concerter avec des collègues de label et être mon propre chef. Et c'est ainsi qu'est arrivé, qu'a commencé l'aventure Cheap Satanism Records.
Et donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que ce week-end, on en parlera plus avant dans l'entretien, tu as une espèce de carte blanche au brass pendant 3 jours où tu invites... où il y aurait des concerts, des expos, différentes choses. Et donc, c'est à cette occasion que je t'ai invité. Est-ce que depuis 13 ans que ça existe, quelle est l'évolution que tu vois justement dans ce milieu de la musique, mais aussi peut-être des micro-labels ?
Alors, j'aime bien dire que créer un label en 2009, c'est vraiment... une stupidité sans nom, parce que si vous suivez un peu l'actualité, je vous apprends rien en disant que acheter des disques n'est pas l'occupation première des personnes. Malheureusement, sur cette 13 années d'activité, c'était déjà très dur en 2009 de vendre un disque, mais aujourd'hui c'est encore plus difficile. Donc d'année en année, c'est de plus en plus difficile. J'ai un travail sur le côté, donc c'est pas mon gagne-pain, le label. Moi, je me définis un peu comme une sorte de Robin des Bois, où je travaille dans le privé, et avec les bénéfices engendrés par mon salaire, ça me permet de sortir des artistes en dessous. Moi, j'en retire surtout une aventure humaine assez passionnante, parce que je rencontre beaucoup d'artistes, certains dont j'étais fan, avec qui maintenant je collabore. J'ai continué à organiser beaucoup de concerts et rencontrer une série d'artistes que j'apprécie fortement. Certains sont devenus des amis. Donc c'est ça que j'en retire. Après, maintenant, le marché de la musique est vraiment très compliqué. C'est très difficile de se faire connaître, de se diffuser et de vendre les disques qui vendent la musique, vu que c'est quand même la première mission de la maison de disques. Mais ça, c'est une aventure passionnante.
Et justement, comment tu vois les évolutions ? Tu dis que c'est quand même bien difficile de pouvoir s'en sortir. Pourtant, il y a de plus en plus de micro-labels qui pullulent. Donc, c'est que quelque part, les gens y trouvent son compte, ou bien est-ce que c'est justement des gens comme toi qui font ça sur comme passion, mais pas comme gagne-pain ? Est-ce que c'est toujours possible de vivre de sa musique
dans ce que je constate autour de moi, moi, c'est plus une passion qu'un gagne-pain. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Il y en a qui arrivent quand même à bien faire tourner leur boutique. Mais ça reste... Enfin, j'en connais pas qui en font une activité professionnelle. Comment je vois l'évolution, c'est vraiment difficile. Je crois que la personne qui trouverait un modèle économique à la musique à l'heure d'aujourd'hui, il va décrocher l'intimbale, mais pour l'instant c'est assez difficile. Il y a le streaming, mais avec le streaming on gagne vraiment des cacahuètes, et encore les cacahuètes c'est gros. on touche des miettes de cacahuètes. Mais sinon, pour revenir à la question de base, pourquoi il y a plein de gens qui font des micro-labels, ce qui est aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de musique qui sort, les moyens d'enregistrer de la musique se sont fort démocratisés, etc. Je connais pas les chiffres exacts, mais dans le marché de la musique, globalement, 25% des sorties sont détenues par les grosses maisons de disques comme Universal, etc. Et 75% des autres, c'est des indépendants, du moyen au petit, au très petit. On appelle ça la longue queue. Et cette longue queue est de plus en plus grande parce que il y a de plus en plus de sorties. Ces dernières années, proportionnellement, les grosses maisons de disques ont sorti moins de disques qu'auparavant, mais ne lésinez pas sur le marketing par contre. Du côté des indépendants, on a continué à inonder le marché, mais parce que je crois que voilà, il faut pas chercher plus loin. Les moyens d'enregistrement se sont démocratisés, c'est beaucoup plus facile d'apprendre la musique de nos jours avec toutes les ressources dont on dispose, et il y a plein de chouettes choses à découvrir et à essayer de partager à son niveau.
Mais du coup, est-ce que ce modèle dans lequel on peut vivre de son art, de sa passion, est-ce qu'il est dépassé? Ou bien est-ce qu'il est réservé comme tu dis, aux happy few qui vont être signés et qui vont percer
De ce que je vois autour de moi, je connais peu de personnes qui vivent directement de leur musique. Ils vivent peut-être de leur art parce qu'ils donnent des cours, ils produisent, ils font des ateliers, des stages et ainsi de suite. Et donc ils arrivent à vivre de leur art, mais de leur musique en lui-même. Ça, moi personnellement, j'en connais pas en fait, ou très 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 peu. Et ceux que je connais, en général, ils ont commencé leur carrière dans les années 90 et ont pu compter sur une époque plus propice où c'était plus facile plus facile, c'est toute proportion gardée, mais où il y avait moyen de se faire connaître et se diffuser, et donc vivre avec un capital de fans et peut-être un bas de laine plus confortable.
Et dans ce que tu produis toi, enfin dans les disques qui sont sur ton label, les artistes pardon qui sont sur ton label, quelle est la proportion aussi entre la vente de, enfin comment expliquer ma question? Qu'est-ce qui, parce qu'on se demande toujours comment sont payés les artistes aussi, et d'autant plus en Belgique où on est en plein de réflexion aussi autour de ce statut d'artiste. Qu'est-ce qui rémunère les artistes? Est-ce que c'est vendre des disques ou est-ce que c'est se produire en concert? Et le corollaire de ma question, c'est à Bruxelles, comment ça se passe ces dernières années pour les concerts, justement? Est-ce que c'est plutôt facile d'organiser des concerts ou c'est de plus en plus compliqué?
Moi, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a quand même une réduction des lieux. Là, par exemple, ce week-end, on va fêter. Ça va être là aussi la fermeture du magasin 4, et on n'est pas sûr s'il va rouvrir et quand et s'il rouvre, quand, comment et sous quel format. Le magasin 4, qui était quand même un des gros piliers de Bruxelles pour faire jouer toute une série de groupes qui n'avaient pas une visibilité ailleurs. Donc après, il y a plein de petits lieux qui sont plus de l'ordre de l'occupation précaire, squat, etc., où les conditions techniques et ou même économiques sont plus difficiles. Oui, à Bruxelles, pour l'instant, on va pas vers un mieux. Après, maintenant, dans la question, il y avait la question sous-jacente de quoi vivent les groupes. Les groupes, effectivement, c'est être sur la route et faire des concerts où ils sont payés. En Belgique, c'est très mal payé quand on n'est pas connu. Par exemple, même des anciennes Belgiques ou des Botaniques, quand on a l'occasion de faire première partie d'un groupe plus connu, le standard de facto de cachet, c'est 250 € sur facture, peu importe le nombre de musiciens qu'il y a sur scène. Donc inutile de dire, même si on a un groupe, un quartet, à 250 € sur facture divisé par 4, quand on enlève les taxes et les impôts, les charges sociales, etc., on est bien en deçà du salaire minimum. Je crois que c'est même illégal de... J'en ai frappé le micro. on est bien hors de ça. C'est même illégal de pratiquer des salaires pareils. Pas mal de groupes, finalement, s'ils arrivent à se produire en France, en Suisse, etc., vont avoir l'occasion d'avoir peut-être des dates un peu plus, un peu mieux rémunératrices, parce que dans chez nos voisins, par exemple, la culture est mieux subventionnée. Mais après, j'en connais pas ou qui arrivent à vivre de leur musique en soi.
Et parce que c'est impressionnant quand même qu'on a ce chiffre que tu dis, 250 € pour un concert, quel que soit le nombre de musiciens. Est-ce que c'est juste une question de... Est-ce que c'est une mauvaise affectation des fonds? Est-ce que c'est une mauvaise répartition entre les artistes, les techniciens, les administrateurs des lieux? D'où vient ce problème, selon toi?
Pour moi, il y a déjà un problème de cadre légal. Quand on fait une déclaration en disant, quand on organise un concert, on doit faire une déclaration à la SABAM qui reverse ses droits d'auteur, et on déclare on va faire un concert avec tel et tel et tel groupe, le formulaire de la SABAM en Belgique donc permet de dire bon, je vais faire jouer tel groupe et il n'y a pas de budget artistique pour le groupe. Donc, officiellement, la société qui reverse ses droits d'auteur en Belgique a prévu le cas où on dit qu'on organise un concert, mais on ne va pas payer le groupe. Ou, secret de Polichinelle, on va payer le groupe en noir, ou on va s'arranger. Et donc, ça, le cadre légal permet pour organiser des concerts, souvent on passe par des agents. Et il y a un agent qui en Flandre, hein, parce que pour une fois, c'est pas une spécificité de la côté française et de sa gestion calamiteuse, mais il y a un agent, une agence de booking qui place des artistes dans des concerts en Flandre, qui a pignon sur rue. Je citerai pas de nom, mais elle permet, on organise un concert, on invite un artiste qui propose, on paye l'artiste au noir, mais eux, ils font une facture de commission sur ce cachet au noir. Et cette agence de booking existe depuis plus de 10 ans et elle n'a jamais été inquiétée par le fisc qu'il y a des factures de commission sur du vent.
Du coup, ça veut dire, excuse-moi, c'est le matin, j'ai... Donc ça veut dire que le groupe il est payé en noir,
oui.
Donc pas du tout légal, mais que l'agence de booking elle
facture une commission
facture
sur ce cachet
au groupe,
à l'organisateur de concert.
À l'organisateur de concert.
Et donc, on se retrouve, la commission, c'est 15% d'un cachet. Et donc, j'ai eu plein de factures de commissions, de cachets qui n'ont en fait jamais été versés officiellement. Et donc, le fisc en Belgique permet ça. Je crois que le fisc ne sait même pas ce que c'est une agence de booking. En France, ça crée beaucoup d'autres effets pervers, mais en France, si on est une salle officielle de concert, comme ce serait l'ancienne Belgique et le Botanique à Bruxelles, je parle pas du magasin 4 ou de lieux plus underground qui ont un fonctionnement plus underground, il est légalement impossible d'organiser un concert sans payer un salaire minimum à tous les musiciens et techniciens qui sont invités. Et si on transgresse cette loi, on se fait taper sur les doigts. C'est une des raisons du pourquoi en France il y a un réseau underground beaucoup plus imaginatif et solidaire, parce que l'underground organise des concerts, mais pas réellement des concerts. Souvent, c'est des associations, et les concerts ne sont pas des concerts, mais des réunions de membres. Et donc, ils transgressent un peu la loi comme ça. Mais ça crée, je crois qu'en France, c'est minimum 180€ par tête un concert. Donc, même une première partie d'un groupe inconnu qui va ramener aucun public, s'ils sont quatre sur scène, on finit déjà un cachet de 700-800€. Mais donc en amont, il faut des salles beaucoup plus subsidiées. Peut-être en France, les acteurs se plaignent beaucoup que résultat, les salles prennent beaucoup moins de risques, parce que fatalement, avec des montants pareils, ils sont obligés d'avoir des affiches qui drainent du public.
Oui, mais justement, c'est un peu la quadrature du cercle, on va dire, parce que pour les petits lieux underground ou des acteurs plus comme toi, comment trouver justement le financement adéquat pour payer correctement les artistes qui viennent, tout en restant justement underground et un peu pas à la marge, mais indépendant, on va dire, et sans rentrer dans la grande structure institutionnelle.
Dans mon cas, je finance sur fonds propres, comme je disais, je travaille dans le privé, je gagne globalement bien ma vie, et donc je travaille sur fonds propres. Alors des fois, j'arrive à vendre mieux des disques. J'ai rarement été à l'équilibre dans les sorties de disques, et je fais encore moins de bénéfices. Mais bon, globalement, ça permet d'avoir un petit bas de laine qui permet de tourner. Dans l'économie des micro-labels, il y a aussi le principe des coproductions. Pour sortir un groupe, on est peut-être 10 labels à s'associer, et chaque label prend une part du tirage de disques, genre à hauteur de 200, 250, 500€. Et en contrepartie, il va recevoir l'équivalent en disque. Et donc, ça permet d'aider des groupes à produire leurs disques, tout en ayant un risque financier minime. D'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup, mais je propose, si tu permets, qu'on écoute un extrait du prochain album de Tombouctou, que je vais sortir vendredi. Et donc ça, c'est une coproduction. Je crois qu'on a une dizaine de labels dessus. Moi, j'ai une part à 200€. Je vais avoir une dizaine, vingtaine de disques à écouler. Donc c'est un album dont je suis vraiment très fan. C'est son leur deuxième album. Et donc, on va écouter Claps on Waves.
beau morceau, Vincent, merci. Et donc, effectivement, si je t'ai invité aujourd'hui, c'était un peu sous format carte blanche. Donc, n'hésite pas. L'idée, c'était que tu puisses nous faire entendre les fleurons de Cheap Satanism Records et nous parler un peu de ce qui va se passer le week-end prochain. Mais peut-être ici, tu nous as fait écouter... ta dernière signature, enfin le disque à sortir en coproduction. Est-ce que les groupes que tu as pu mettre sur le label, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que ton style musical aussi, comment ça s'est passé depuis 13 ans? J'imagine que oui. Hein, mais...
Alors au début, j'étais vraiment plus tourné en format comme Tombouctou. J'aurais pu le sortir sans problème il y a 13 ans, donc un rock alternatif avec des fortes influences anglo-saxonnes. Petit à petit, à force de rencontres et ainsi de suite, j'ai sorti des fois des albums beaucoup plus expérimentaux. Très rapidement, pour un label bruxellois, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes étrangers d'Italie, du Canada, des États-Unis et beaucoup de France aussi. Tombouctou est un groupe français, j'ai travaillé avec des Suisses. Je reste un inconditionnel d'un certain rock alternatif. Avec des noms comme Sonic Youth, si j'étais un musicien, je dirais que c'est une de mes influences majeures. Mais au fur et à mesure des années, j'ai ouvert le catalogue à des choses plus électroniques, des choses plus expérimentales, des choses plus contemplatives. Hors antenne, on parlait par exemple de Clément Nourry. Que j'ai rencontré parce qu'il était guitariste de Mississokido. Ensuite, on a sorti 3 disques de lui sur Cheap Satanism avec le groupe Joy as a Toy. Et alors, un jour, il m'a proposé son solo où il était tout seul à la guitare. C'est une musique très cinématographique, très contemplative. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas été à l'aise de sortir au début du label. Et donc, c'était l'album Under the Reef qui est maintenant devenu. Under the Reef Orchestra, où il a monté un groupe autour de la musique de cet album, et maintenant Under the Reef Orchestra a sa propre vie et a déjà sorti 2 albums chez mes confrères de Capitan Records,
dont on a déjà parlé ici aussi.
Il y a un air de famille.
Il y a un air de famille. Et justement, Under the Reef Orchestra, ils vont. Petite promo. enregistrer un disque live ce week-end. Donc je pense que si vous allez vous chercher un peu Under the Reef Orchestra, vous pouvez encore trouver des tickets pour assister à ça. Mais revenons à Cheap Satanism Records. J'avais une question. C'est quoi le processus en fait pour signer quelqu'un? Est-ce que c'est surtout quand ils ne sont pas pour les Bruxellois ou même les Belges, ça semble facile. Mais comment on rencontre des gens d'ailleurs et qu'on en vient à leur faire signer, à sortir leur disque sur un petit label bruxellois?
Eh bien, il y a quelque chose, une invention assez magique, l'email. Et donc, je reçois des emails je suis très lent à prendre le temps de les écouter. Et souvent, quand on est une maison de disques, on a beaucoup d'emails qui sont très à côté de la plaque, où on sent que l'adresse mail est partagée dans des listes de... maison de disque, et il y a des groupes qui n'écoutent pas c'est quoi la maison de disque et envoient, et on finit avec quelque chose complètement à côté de la plaque. Mais des fois il y a des très bonnes surprises et alors on décide de collaborer ensemble. Et après, dans les groupes dans tous les groupes étrangers, et aussi souvent c'est des groupes que j'ai vus par exemple une fois à Bruxelles quand ils jouaient, et donc j'ai été vers eux et j'ai dit que j'avais un petit label et que si un jour ils avaient besoin de sortir un disque et qu'ils n'avaient pas de label, ils pouvaient toujours me contacter. Il y a eu des projets qui sont arrivés comme ça. Il y a d'autres projets d'artistes dont je suis fan, où il y a des anecdotes assez rigolotes. Je peux raconter l'anecdote de Fabrizio Palumbo, qui un des membres du groupe italien Larsen, dont le premier album était sorti sur Young God Records, le label de Michael Gira de Swans, donc excusez du peu. Et en fait, un jour, le Café Central, l'ancienne mouture du Café Central, avait invité Larsen à jouer. Et Isabelle, gérante du Café Central, m'avait demandé si je pouvais héberger certains musiciens de Larsen. Et moi, j'étais fan de Larsen. J'écoute ça depuis le début, depuis leur premier album. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi. Et donc, je me retrouve avec une partie de Larsen qui vient dormir à la maison, dont Fabrizio Palumbo. Et il voit sur mes murs des posters de précédentes affiches Cheap Satanism, etc. Il me demande c'est quoi. Je dis, j'ai un label qui s'appelle Cheap Satanism, etc. Et il me dit à ce moment-là, je suis occupé à composer un album concept autour de Satan. Je vais te le proposer. Alors je dis, oui, tu peux. J'y croyais pas. Et un an plus tard, il m'envoie une démo de l'album, et j'étais waouh, et donc je l'ai sorti sans hésiter. Je propose qu'on écoute un extrait de cet album. C'est en plus une reprise de David Bowie, 5 Years, et donc on écoute R, c'est la lettre R entre parenthèses, ça c'est le nom du projet, et donc là on écoute 5 Years, c'est sorti sur l'album All About Satan sur Cheap Satanism. Skinny people. peut y aller parce que ça va finir en...
Voilà, donc on écoutait cette très belle reprise de Five Years, mais merci de nous avoir partagé cela, Vincent. Et comme tu nous disais, il est déjà 8h41, il faudrait pas qu'on arrive à 9h sans avoir parlé de ce fameux week-end, donc qui est en fait... une proposition de Cheap Satanism Records en collaboration avec le Stirput. Raconte-nous un peu.
Il y a 4 ans, et depuis lors, je m'intéresse vraiment à ce que fait le Centre culturel de Forêt, le Brass, et notamment, rien que j'ai un fils et les stages qu'il propose pour les jeunes, les pré-ados et les ados sont vraiment chouettes. Et alors, leur programmation assez éclectique est vraiment très chouette. En plus, par le passé, j'ai organisé au Brass, notamment Chelsea Wolf, il y a 8 ans. J'en gardais un bon souvenir. Pour ceux qui connaissent pas le Brass est à côté du Wills, le musée d'art contemporain, qui est dans une ancienne brasserie, et le Brass est lui-même dans une ancienne brasserie, donc rien que architecturalement, le lieu vaut le coup d'œil. Et donc, il y a l'année passée, je crois, donc, une artiste avec qui j'ai travaillé et dont j'ai sorti la première sortie de Cheap Satanism était un de ses projets, donc Dominique Van Kapellen de Baby Fire. Moi j'ai sorti le premier album de Baby Fire et j'ai surtout sorti Keiki. Pour l'anecdote, le nom du label est directement lié à Keiki. Keiki se définissait comme un groupe de satanic pop. Et dans leur newsletter, ils commençaient toujours leur newsletter par « Bonjour les amis du satanisme à deux balles ». Et donc je suis un jour répondu « Ah ben, il faudrait sortir ton disque sur un label qui s'appelle Cheap Satanism ». Et voilà, de fil en aiguille, le label a été créé à l'origine sur mesure pour sortir Keiki. Ensuite, il a eu sa vie propre. Et donc, l'année passée, elle avait eu une carte blanche au Brass, où elle avait occupé le Brass pendant aussi 3 jours. Il y avait une soirée de concert, des après-midi avec quelques concerts et une exposition. Et j'ai trouvé le format, c'est vraiment super chouette. Et donc j'ai contacté le Brass également dans la foulée de cet événement en disant ah bah ce serait sympa, je suis sur Forêt, j'ai un label, ce serait sympa si je pouvais faire quelque chose de similaire. Et le Brass a dit d'accord. Bon, on a mis du temps à trouver à synchroniser les montres, pour ceux qui se souviennent de Parker Lewis, et finalement on s'est arrêté sur ce premier week-end de février, et ça a exactement le même format, à savoir on commence par une soirée de concert et il y aura des concerts en après-midi, le samedi, le dimanche, le vendredi c'est la soirée de concert. Et pour l'exposition, j'ai donné une carte blanche, donc il y a une carte blanche dans la carte blanche, donc j'ai donné une carte blanche au Stirput, qui est une galerie d'art associative qui fonctionne sur un collectif bénévole, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a un côté bon enfant mais très poil à gratter dans tout ce qu'ils présentent, et je trouve ça colle bien à l'esprit du nom Cheap Satanism. Et donc je leur ai proposé d'occuper le Brass pendant 3 jours, et ils étaient partants. Donc il y aura une exposition du Stirput avec un peu moins de 20 artistes qui vont présenter des œuvres plus ou moins liées à Satan, de près ou de loin. Et donc ça, elle sera accessible dès le vendredi soir à 19h et le samedi et dimanche de 14 à 18h. Et le vendredi soir, il y aura trois concerts également, du groupe Alkaline, qui est un groupe de Cheap Satanism, du groupe Aymat, des Français, et du groupe Trotsky Nautique. Ça, c'est mon gros coup de cœur. Et je propose qu'on écoute un morceau de Trotsky Nautique que je dédicace à tous les enseignants. Et donc ça s'appelle Déterminisme social.
La dédicace.
Par l'anecdote, ils ont vraiment quelque chose avec l'enseignement parce que dans un de leurs albums, ils ont aussi une parodie de Porcherie de Berruyer Noir et le refrain c'est l'école est une vraie porcherie et la jeunesse emmerde l'éducation nationale.
Et donc ces groupes-là, c'est des groupes que tu as invités.
Ouais. Et donc, à part Alcaline, ce soir-là, tous les autres groupes n'ont rien à voir avec Cheap Satanism. C'est juste des coups de cœur que j'avais envie d'inviter. Mais Trotsky Nautique, ça faisait vraiment quelques temps que j'avais envie de les inviter. Dans Trotsky Nautique, on retrouve aussi David Snug. Si les paroles de cette chanson vous ont plu, je vous invite de chercher David Snug sur Google. C'est un auteur de BD et... C'est un humour assez similaire aux paroles de Trotsky Nautique qu'on retrouve dans ces BD. C'est assez moi je suis vraiment fan et je l'ai jamais rencontré, donc ça va être
Me semble que j'ai vu qu'il venait en dédicace quelque part.
Aussi, il m'a dit que le lendemain il venait en dédicace quelque part à Bruxelles. Je ne sais pas où. Mais donc le vendredi, il fera un concert au Brass dans le cadre de mon événement qui s'appelle Saturday Night Fever. On l'a pas encore cité le nom. Et le lendemain, il fera des dédicaces quelque part à Bruxelles dans l'après-midi si vous êtes intéressé.
Oui. Et c'est lui qui a réalisé le clip.
Oui.
Voilà. J'aime beaucoup Trotsky Nautique aussi. Merci d'avoir passé ça. Et quelle est la suite des événements après?
Alors, le samedi après-midi, on va continuer peut-être le programme. Le samedi après-midi, donc l'expo sera accessible librement. Et il y aura deux concerts gratuits de 16 à 18 heures. Un de Lotissement, qui est un groupe ambiant expérimental n'a encore rien enregistré officiellement, à part on peut trouver des lives sur Bandcamp. Mais j'aime beaucoup aussi, c'est un groupe que je connais parce qu'il y a un membre du Sterput dans le groupe. Et ensuite, Sola, qui est le projet un projet de Grégory Duby qui se produit en solo. Grégory Duby, qui est un guitariste assez extraordinaire. Avant, il jouait dans Jesus Is My Son, aussi un projet solo, et on l'a vu dans des projets plus bruyants comme Cab Ending ou Zoo, ou récemment un projet plus post-rock, on va dire, qui s'appelle Sect. Et là, il va présenter son album Ballade, un album que j'ai sorti en juin dernier, qui ne contient que des reprises de chansons françaises ou de variétés des années 80. Ça va de Johnny Hallyday à Michel Berger, à France Gall, à Culture Club, à sa sauce. Donc, à sa sauce, c'est une musique très lent, très dépouillé et très mélancolique. On écoutera peut-être un extrait tout à l'heure. Et donc ça, ces deux concerts-là sont gratuits. Et le dimanche aussi, de 14 à 18 heures, il y aura l'exposition toujours accès libre, et également en accès libre, il y aura un petit salon de micro-édition. Donc pas mal des artistes qui exposent seront là aussi avec des œuvres, des fanzines, etc., qu'ils créent eux-mêmes. Et il y aura aussi également quelques micro-labels, dont Cheap Satanism, Attila Tralala, Everything is Shit, 30 Type Records, et il y aura aussi une distro itinérante de bouquins assez engagés que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Lapinothèque. Donc si vous avez envie de faire déjà des stocks pour vos prochains Noël et pour avoir des cadeaux à offrir très intéressants, il faudrait y être.
Et ça, c'est que dimanche.
Et puis, pour terminer en beauté, à 18h, il y aura un concert à prix libre. C'est pour des raisons administratives, on doit le mettre à prix libre. De Duflan, que beaucoup doivent connaître.
Ok. Et sinon, le vendredi, ça, c'est, il faut réserver.
Il faut réserver, ou il y aura sûrement des entrées le jour okay. même. Donc ça, c'est maintenant le Brass pratique un tarif solidaire. Donc c'est minimum 5€. Après, vous êtes invité à payer ce que vous voulez. Le prix suggéré est 10€, mais c'est minimum 5€. Et ça permet à les moins fortunés de pouvoir avoir accès au concert.
Super.
Alors, pour se simplifier la vie, on n'a pas fait de vernissage gratuit, accessible à tous. Si vous voulez voir l'expo dès vendredi, là, il va falloir aussi avoir une place ou payer une entrée. Mais si vous n'êtes pas intéressé par la soirée de vendredi, vous pouvez aller voir l'exposition gratuitement le samedi et dimanche après-midi.
Bien. Bien, merci beaucoup, Vincent. On termine en musique avec une dernière proposition.
Mais donc, comme j'ai présenté le projet Sola, je propose qu'on écoute sa reprise de Que je t'aime de Johnny Hallyday. Et donc, il sera en concert gratuit samedi, quelque part vers 17h, au Brass.
Thank you. Thank you.